La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés, bonjour. C'est un bonjour chaleureux, très chaleureux, pour ce jour du Seigneur. Je suis très content. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de choses que personne n'aborde souvent. Et on va parler de choses que personne ne veut vous dire. Aujourd'hui, on va traiter des dossiers secrets. La semaine dernière, nous avons eu le thème en partage, le mariage en Jésus-Christ. Et on vous a dit que c'était la première partie. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie. Je racle ma gorge parce que vous devez bien entendre ce que je vais dire aujourd'hui. On ne va pas revenir sur les éléments qui sont lié à ce que la dernière fois nous ayons vu qu'il y a des gens qui sont mariés mais Dieu n'est pas dedans. On ne va pas parler des choses relatives aux célibataires, aux veuves, aux veufs. On ne va pas parler des problèmes des divorcés ou des divorçants. On va parler du mariage dans son contenu, à savoir, quand vous êtes déjà marié et que cela corresponde effectivement au plan de Dieu, que vous soyez marié. C'est de ça dont il s'agit. Quand je parle français, là, je dis que c'est de ça dont il s'agit. C'est pourquoi vous-même, vous cessiez de parler le mauvais français que je vois jusqu'à la télé. Que quelqu'un dise à la télé, c'est ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il s'agit. Et puis d'autres reprennent, oui, c'est ça qui. C'est même pas français, hein. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc, on va parler aujourd'hui doucement, très doucement. Les bafans disent que nda 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 nda, les basas disent que mbengen mbengen, les douala disent que nayo nayo. Ce n'est pas à force, c'est une causerie. Quand vous êtes marié, quand vous êtes dans le mariage, quand vous êtes dedans, les gens ont dansé, ripipi, parlent encore, ripipi, parlent encore. D'autres sont montés sur les fenêtres de voiture. Certains sont montés sur les toits de voiture. Il y en a qui ont bu, d'autres ont même saoulé. Ça s'est passé à la mairie. Ça s'est passé à l'église, ça s'est passé au village, ou même quand ce n'est pas au village, on a fait dans la maison de ton père. Quand vous avez fini tout ça, si vous voulez vous ajouter même le bonus, vous avez même eu la lune de miel, vous êtes allé aux îles Bahamas, Caraïbes, ou je ne sais pas encore trop quoi là. Vous avez fait tous vos tours pour célébrer le mariage. Si vous voulez, vous avez loué tout un hôtel pour vous seul. Il y a des gens qui ont un moyen, non, ils peuvent faire ça. Après là, vous rentrez à la maison. Vous avez même dessoulé. Vous avez même défêté. La fête est finie au point où Même le corps s'est reposé, il y a eu récupération. Maintenant, vous êtes dans le mariage. Ce n'est pas le ripipi parlant encore. Vous êtes entre vous là, dans le foyer. Toi et elle. Toi et lui. Je ne parle de mariage que dans la logique de ce que un homme et une femme soient mariés. Tout le reste, ce n'est pas le mariage. Le mariage tel qu'institué par Dieu, l'Éternel des armées, c'est qu'un être humain de sexe masculin s'unit à un être humain de sexe féminin. Le mariage pour tout cela, c'est du satanisme à l'état brut. Le mariage zoophilique là, c'est du satanisme à l'état brut. J'ai vu l'autre qui a épousé un tapis. Donc, nous sommes dans le cadre strict du mariage tel que voulu par Dieu et encadré par l'Éternel des armées. Vous voilà alors, vous êtes mariés. Vous êtes dedans. Il faut consommer le mariage et le consommer dans absolument tous ses compartiments. Quelles sont les bases depuis lesquelles vous allez vous appuyer pour assumer le mariage? Le gérer comme cela se doit et jouer votre partition. Nous savons au préalable que il y a des niveaux de compatibilité. Ces niveaux de compatibilité sont spirituels, d'abord, tout commence là-bas, que personne ne vous dise le contraire. Le spirituel, le mental, affectif, physiologique. Dieu a déjà fait la compatibilité au niveau spirituel, il t'a dit que c'est ta personne. Au niveau affectif, les gens ont commencé à tomber amoureux jusqu'à ce qu'ils dorment même seulement dans le sentiment d'être amoureux. Ils se réveillent dedans. Il y a mes problèmes de compatibilité intellectuelle. Donc, il y a au moins ces 5 compartiments. Donc, vous étiez en train de parler de quelque chose. La compatibilité comme base initiale. Vous êtes compatible au niveau spirituel parce que l'Éternel des armées, le Créateur, sait mieux que vous comment vous êtes fait, comment vous êtes constitué, cum statuere, mettre ensemble. C'est lui qui vous a fabriqué. Le fabricant connaît le produit. Il connaît les correspondance entre le produit qu'il a fabriqué et l'autre produit qu'il a fabriqué. C'est Dieu lui-même qui sait comment tu es constitué. Il n'existe aucune école humaine de toutes catégories confondues. Et c'est un défi que je lance. Qui sache exactement la constitution de l'être humain. L'être humain en entier, esprit, âme et corps. Il n'existe sur terre aucune école. Il n'y a que Dieu qui sait comment l'être humain est constitué. C'est pourquoi il n'y a que Dieu qui sait. Qui correspond à qui? On ne va pas rentrer dans cette affaire-là parce que on a déjà parlé de ça la dernière fois. Aujourd'hui là, je vais vous amener dans le romantisme. Il ne faut pas que quelqu'un nous perturbe dans les langues de romantisme. Je ne suis pas à vous parler au mariage tchakalala. Hein. Je ne suis pas à vous ça. Je vais vous parler du mariage qu'on arrange et qu'on manage. On met du miel dedans, on met un pincé de sel, on dose le piment, ça ne doit pas chauffer. On met un peu de sucre, on met les condiments. C'est ça dont je veux parler. C'est pourquoi vous voyez, je suis détendu comme ça. Au Cameroun, il y a des gens qui parlent pidgin. Même en Guinée équatoriale, j'ai trouvé ça. Ils parlent pidgin là-bas. Ils disent que Toudé n'a Toudé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, je veux vous enseigner le romantisme dans le mariage. Pas pour un an, hein, pour la vie. Donc, je disais tantôt qu'il y a les niveaux de compatibilité et nous étions en train de renforcer l'idée suivant laquelle seul Dieu comprend mieux que l'être humain la compatibilité dans le mariage. Car Dieu est le créateur, c'est le Père créateur, le roi total. Le Père total, c'est lui qui connaît la composition de tout élément de la nature, du monde invisible au monde visible. Donc quand tu as eu la grâce que tu as écouté la voix de Dieu, tu es dans le mariage que Dieu lui l'a demandé que tu fasses. Vous avez fait répéter par là encore. Vous avez fait les fêtes, les gens ont passé les nuits blanches, il y a eu la nourriture. Certains même sont partis avec les plastiques qu'ils avaient cachés dans les sacs, etc. Je vous connais, je vous vois venir aux fêtes. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent avec les plastiques. Ils veulent toujours nous faire honte au tio. Mange, tu laisses comme ça, tu pars avec les plastiques. Même la sauce jaune tu mets dans le plastique, que tu fais ça comment? Tu es même simple. Donc, la compatibilité spirituelle, à qui? Il faut manager les autres compatibilités. Dieu n'a pas dit que vous êtes ensemble parce que vous deux, vous avez le doctorat. C'est pourquoi que vous devez être ensemble. Dieu n'a pas dit que vous êtes ensemble parce que vous deux, vous avez le bac. C'est pour ça que vous devez être ensemble. Il vous a mis ensemble afin que vous soyez épanouis dans son œuvre. Il a vu ce que l'un peut apporter à l'autre, ce que l'autre peut apporter à l'un. Et comment est-ce que ensemble vous allez contribuer à ce que votre vie soit un paradis et à ce que l'œuvre de Dieu en elle-même grandisse avec tous les parfums du paradis. Ça signifie quoi? Dans une certaine mesure, l'élément de référence premier, c'est la conscience que vous avez de ce que c'est Dieu lui-même qui vous a mis à l'endroit là. Quand tu te maries selon Dieu, et que tu oublies que c'est Dieu qui t'a mis à l'endroit là. Ton ordinateur va écrire error. Ça va remplir tout ton écran error, 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 error. Tu es dans un mariage que Dieu a voulu. On a tout vérifié, on a tout encadré, on a tout amené. On a amené le sujet à beaucoup d'endroits. On a vu que c'est Dieu lui-même, l'Esprit Saint a encadré, a sécurisé, a modifié, a changé les paramètres pour que votre mariage soit solide. Vous arrivez à la matérialisation de ce mariage. Dès que tu entres dans le mariage, tu oublies que c'est Dieu lui-même qui t'a mis à l'endroit là. Si tu oublies que c'est Dieu lui-même qui t'a mis à l'endroit là, ta vie va être trop compliquée. Tu dois avoir vraiment conscience de ce que c'est Dieu qui t'a mis à cet endroit. Lorsque tu as conscience de ce que c'est Dieu qui t'a mis à cet endroit, partant de ce référentiel, tu penses la démarche avec laquelle tu dois exister, coexister, cohabiter, communiquer, communier avec ton conjoint. Cela signifie bien entendu que c'est selon Dieu que tu dois marcher, pas selon les hommes. Cela signifie bien entendu que c'est en te préoccupant de la volonté de Dieu que tu vas gérer cette affaire de mariage. Si tu veux, on t'appelle commandeur ou on t'appelle reine. On t'appelle même illustre reine. On t'appelle général en chef ou amiral en chef. On t'appelle commandant. On t'appelle capitaine. On dit même que tu es ingénieur, supérieur ou recteur ou je ne sais pas quoi. Si tu es même Bayam Selam, ça ne nous pose aucun problème. Tu es couturière. Tu dois comprendre que là où tu es, c'est Dieu qui t'a mis là. Si c'est Dieu qui t'a mis là, c'est lui qui sert de référence. Si tu es donc à un endroit où Dieu t'a mis, tu dois connaître les principes de Dieu qui sont les plus importants. Parmi les principes de Dieu qui sont les plus importants, tu dois avoir dans ton cœur, ce n'est pas dans la Bible que tu lis, ça doit déjà arriver au stade où tu as transféré ça en toi. Le commandement de l'amour. Et si on était en salle de classe, j'allais dire aux enfants, grand 1, commandement de l'amour comme base fondationnelle du mariage. Mais je n'ai pas dit que ça vous interdit d'écrire, hein? Mais je vous dis quand même, c'est la causerie. Si vous avez compris le commandement de l'amour comme base fondationnelle du mariage, là, on va avancer. Quand on parle du commandement de l'amour, il y a d'abord le très célèbre 1 Corinthiens 13, que nous devons lire ensemble. 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, ou encore selon le texte, de la charité. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne me sers de rien. Cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Tendez les oreilles. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. J'ai de tendresse, oui. Il y a les autres là, tu veux être distrait. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Quand elle dit aux gens de parler même aux voisins, ils n'arrivent pas à regarder les voisins dans les yeux. Parce que la malhonnêteté les dérange. Je vous vois, hein? Je rentre à l'endroit là. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Je dis, hein, les gens qui souffrent de cupidité aggravée, ils ont entendu ce que je dis là. Ils sont infimes même dans leur prière. Donne-moi. Leur prière, c'est donne-moi. Je vais faire un chant spécial pour ceux qui ne savent pas prier. Leur prière, c'est là. On va prendre la batterie, on va tout mettre. Le thème de la prière, c'était, sera donne-moi. C'est écrit. Il y a des gens qui viennent ici, ils ne prennent même pas leur Bible. Donc moi, je lis son sang. Tu ne peux pas vérifier, parce que quand ta mauvaise bouche va sortir pour dire que j'avais dit, alors que c'est écrit dans la Bible, prends ta Bible, tu lis à l'endroit. Oui. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Je vais appuyer sur le bouton là, ça va pas se casser. Je vous connais. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Il y a encore les autres. Leur communication dans le mariage, c'est toujours être fâché. Tous les énerve. Aucune tempérance. Pas de recul. Aucune douceur. Vous êtes devenu un gorille dans la maison. Tu ne peux même pas répondre à quelqu'un doucement, gentiment, poliment. La parole dit que vous êtes les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Vous dites même que vous êtes forts. Je vais relire certains passages même 6 fois. Parce qu'il était dur. Je vous regarde comme ça, quand je regarde, c'était dur. Il y a les pare-balles qu'ils ont installées pour que certains compartiments de leur cerveau ne soient pas activés par la parole de Dieu. Riez si vous voulez. Moi, je vous dis seulement la vérité. On se connaît. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Tu es dans le mariage. Tu passes le temps à soupçonner ton conjoint de tout et de rien. Tu es toujours en train de présumer du mal qu'il a fait. Ou qu'il va faire. Dans une relation où Dieu t'a mis. Tu es même simple. Tu ne peux pas faire confiance aussi, on voit. Tu dois tout vérifier toi-même. Aller lorgner son téléphone en permanence. Quand quelqu'un, on te dit que c'est Dieu qui t'a mis dans une relation, Dieu lui-même assure certaines garanties. Le mariage en Jésus-Christ a un caractère secure. Les anglophones disent secure. Il faut qu'on retrouve ça en français. Sécurisé. C'est les relations internationales et les voyages. Parfois, quand tu commences à trop parler une langue, l'autre, tu commences à la chercher. va chercher dans le cerveau. Ça a un côté sécure, vraiment sécurisé. Quand Dieu t'a mis à un endroit, tu veux dribbler, Dieu va te fouetter. Ce n'est pas le truc que tu fais dans le monde là-bas, tu fais. On ne fait pas le désordre dans la maison de Dieu. Quand Dieu t'a mis dans le mariage, il ne peut pas accepter que tu tortures le conjoint qu'il t'a donné. Quand toi tu dis que c'est la chair de ma chair, les os de mes os, on torture. Quand tu fais du mal à ton conjoint, que ce soit une femme ou un homme, c'est à toi-même que tu fais du mal. Tu as grandi dans une maison où tout le monde avait le banditisme dans le cerveau. Tu entres dans un mariage, tu penses aussi que ton mari est bandit ou ta femme est bandite. Toi aussi. Laisse les tares et les retards d'avant là. Elle ne s'irrite point. J'ai encore dit ne s'irrite point. Il y a des gens là-bas, ils ne savent pas être tempérés, doux, posés, calmes. Ils ne veulent pas avoir le recul. En tout et en tout temps, ils ne veulent pas avoir le recul. Ils ont un comportement de hérisson. Les épines sortent de tous les côtés. Tu ne dois même pas le toucher. Qui t'a dit que Dieu te met dans un mariage pour que tu aies un comportement de hérisson? Chaque côté de ton corps, si on touche, chaque côté de toi qu'on va toucher, si c'est comme si tu avais des épines. Tu piques automatiquement. Donc, chaque fois que quelqu'un va te toucher, il doit saigner. Si quelqu'un s'approche même de trop, même par accident, il doit se faire mal. Tu es marié. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Il y a des gens qui, ils doivent refaire certains compartiments de leur comportement. Mais elle se réjouit de la vérité. Tendez les oreilles, tendez les oreilles. Il y a des gens, leurs oreilles étaient derrière. Parce que ce que je veux dire après là, il n'y a aucune oreille, même le quart de l'oreille de quelqu'un ne doit pas être ailleurs pour ce que je vais dire là. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Est-ce que vous avez bien entendu ce que je viens de lire? Depuis des années que je vous dis méditer 1 Corinthiens 13. Aujourd'hui, là, vous avez médité ça aujourd'hui. Je pratique la démocratie avancée et même à peser sur vous. Aujourd'hui, là, vous allez vous arrêter pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans 1 Corinthiens 13 que vous n'avez pas encore accepté de chercher et comprendre. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Il y a des gens qui détestent la vérité. C'est quand tu as une femme qui déteste ta vérité, tes malheurs entrent seulement par là-bas. Quand tu as un mari qui déteste la vérité, tu auras trop de problèmes. Quelle que soit la douceur avec laquelle tu vas dire la vérité, il va te faire payer sa cash. J'ai dit, hein, c'est écrit, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Les gens rancuniers là, qui disent des choses dans leur cœur, ils ont eu l'entraînement en stade avancé pendant 20 ans en famille. 20 ans d'entraînement en stage avancé, de rancune, de rébellion, de têtuesse. De besoin de vengeance. Ils entrent dans le mariage pour le malheur de l'autre. Vous avez lu. Parce qu'il a dit qu'il y a des gens qui viennent ici, non pas la Bible. Elle excuse tout. Vous avez lu ça? La charité, en d'autres termes, l'amour, excuse tout. Crois tout. espère tout, supporte tout. Il y a souvent des gens, tu as fait quelque chose, toi-même tu n'es pas au courant. Parce que de toute façon, quand tu posais l'acte, tu ne voulais pas faire du mal. Tu ne savais même pas que ça l'a blessé. Elle te garde dans jusqu'à... Ça ne finit pas, hein? Donc, jusqu'à là, ça a dit à... Jusqu'à... Au lieu de dialoguer, regarder le problème ensemble, dis que tu as fait telle chose, ça m'a fait du mal. Elle ne te dit pas. Pour ça, les femmes sont championnes, hein? Elle ne te dit pas. Tu te rends compte seulement que le climat a changé. Alors que si elle t'avait dit, soit elle se serait rendue compte que tu n'étais pas au courant, soit ce n'est même pas toi qui as fait, soit elle aurait compris tes intentions et aurait effacé. Je vous préviens, je vous dis ça aujourd'hui, ne croyez pas que quand une situation vous est désagréable, c'est que quelqu'un a nécessairement tort. C'est un comportement et une mentalité primée. Ne pensez pas que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'il a tort. C'est une mentalité primée. C'est des enfantillages. C'est la preuve qu'on n'a même pas encore commencé à grandir. Il y a des gens ici qui sont tellement infimes que dès que tu n'es pas d'accord avec eux, tu as tort. On doit te pendre une fois. Tu dois mourir même. Alors que parfois, c'est seulement l'ignorance qui vous dérange. Ou les émotions même qui vous dérangent. Vous n'avez rien compris à ce qui se passe. On vous a dit que l'amour supporte tout. Espère tout. Crois tout, excuse tout. Dans croire là, il faut avoir la ferme assurance de ce que c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a mis dans ce mariage. Il va tout porter, il va tout supporter, il va jouer sa partition tant que je sais que lui il est là. Parce que certains, quand le mariage commence à avoir certains problèmes, ils oublient même qu'ils peuvent aller vers Dieu. Particulièrement les femmes qui pourtant ont un accès direct à l'Éternel. Ce sont les seuls êtres humains qui peuvent chuchoter à l'oreille de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir une grâce aussi particulière, que vous êtes dans un mariage où c'est Jésus-Christ lui-même qui vous a mis. Vous oubliez qu'en toutes circonstances, il peut être utile. En tout moment, il peut discuter avec vous des questions. Qui a dit que comme c'est Dieu qui vous a mis à l'endroit là, il n'y a plus rien à construire. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à transformer. Il n'y a plus rien à innover. Il n'y a plus rien à développer. Il n'y a plus rien à apporter. Qui a dit ça? C'est là que les choses se passent. Je vous ai dit au départ qu'il faut avoir une hyper conscience de ce que si Dieu vous a mis dans un mariage, Dieu assume ses choix. Entendez la langue que je vous parle. Quand Dieu vous met quelque part, il vous a choisi à une fonction en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant qu'époux quelque part, en tant qu'épouse quelque part, Dieu assume ses choix. Il assume ses choix. C'est-à-dire que quand il vous met à cet endroit-là, il n'est jamais loin. Il vous met là-bas, lui-même le dossier, il a continué à le concerner. Il ne vous abandonne pas. Il ne vous jette pas quelque part en disant que bon, de toute façon, je t'ai mis là-bas. Débrouille-toi. Cela signifie que dans le mariage, même si vous n'en avez pas conscience à tous les niveaux, Dieu est présent. Pourquoi tu veux t'énerver? Pourquoi veux-tu tout gâter? Pourquoi veux-tu manquer de tempérance? Comme si en dernier recours, si ça te dépasse, Dieu n'est pas là. Parce que si ça te dépasse, Dieu, ça ne peut pas le dépasser. La parole de Dieu est claire et limpide. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu ne te met pas dans un mariage avec les plans initiaux de divorce. Il te met dans un mariage afin que dedans tu sois épanoui, heureux et heureuse. Ça veut dire que lui-même sait qu'à travers la collaboration, la cohabitation, la communication, la communion que vous avez, la coopération que vous avez en partage, au niveau spirituel et matériel, vous pourrez y arriver. Vous faites votre part de manière maximale, en donnant le meilleur de vous-même en toutes circonstances, et Dieu fera toujours la sienne. C'est de ça dont il s'agit. Quand tu es dans le mariage voulu par Dieu, tu dois être sûr que quel que soit ce qui se passe dans ce mariage, d'improbable, de désagréable, de compliqué, tu peux toujours compter sur Dieu, au minimum pour t'orienter, mais au mieux pour agir et influencer la réalité. Quand tu es une personne explosive, nerveuse, colérique, irritable, qui s'irrite pour tout et pour rien, tu es en train d'aller où? Quand on regarde même ton comportement, tu es devenu un juge dans la maison. Le mariage est-il devenu un lieu de tribunal? C'est la Cour suprême? Ou bien c'est le tribunal de première instance? Quand on regarde ton comportement, tu n'es jamais loin. Si tu n'es pas avocat, tu es procureur. Si tu n'es pas procureur, tu es juge. Tu fais quoi dans ces fonctions? On t'a dit que viens ici aimer. On t'a dit de lancer les procès. Parce que tu as grandi étant une personne qui sait seulement chercher les problèmes, tu viens aussi chercher les problèmes. Là, on a dit que viens aimer et viens te faire aimer. Tu es même simple. Ça te fait mal où d'aimer la personne que Dieu t'a donnée? Je pose la question, moi je ne plaisante pas là-dessus. Ça fait mal à quel endroit d'aimer la personne que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer? Quand on dit que la charité excuse tout, quand tu pardonnes, tu es léger. Tu fais quoi? Des pierres dans le cœur. Quand tu as des pierres comme ça dans le cœur, Dieu ne vient plus dans le cœur là. Dieu ne discute pas sa place avec quelqu'un. Il est un Dieu jaloux. Ton cœur doit lui appartenir. Quand il lance un coup d'œil, il voit seulement de grosses pierres tranchantes dans ton cœur. Non, non, non. Il te laisse là-bas. Il te regarde à distance de sécurité. Jusqu'à ce que toi-même tu comprennes qu'il faut enlever ces pierres-là. Comme toi, ta spécialité, c'est seulement être inquiète. L'inquiétude. Tu es inquiète pour tout. pour rien et pour tout en même temps. Quand il y a les problèmes, les solutions existent. Où est donc ta foi? Donc tu ne crois pas que les solutions existent. Tu es né comment? Tu es tombé du ciel. En acceptant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu n'as pas su qu'il est un intervenant. Ou bien tu n'as pas lu la partie où il a écrit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quelle est donc ta foi? Où est donc ta foi? Qui t'a dit que ta vie de maintenant avec Jésus-Christ, c'est comme la vie d'avant sans Jésus-Christ? D'ailleurs même, qui vous a dit que quand vous êtes dans le mariage, les épreuves finissent? Tu dois passer les épreuves parce que après chaque épreuve que tu as passée, il y a des élévations. Il y a des situations que Dieu laisse. Qui t'a dit que quand tu es arrivé dans le mariage, tu étais déjà parfait ou parfaite? Dans le mariage, tu as des examens à passer. Tu as l'examen de la patience à passer. Oui. Tu as l'examen de la persévérance à passer. Oui. Tu as l'examen de la foi à passer. Oui. Tu as l'examen de la fidélité à passer. Oui. Tu as l'examen de l'amour à passer. Oui. Tu as l'examen de la tempérance à passer. Oui. Tu as l'examen de la douceur à passer. Tes épines de porc épique, là, doivent toutes tomber. Nous, on n'a pas besoin de porc épique. C'est comment? On fait les câlins avec les épines. Ce sont des armes, les épines. Les anglophones disent que that is the main point. C'est là le point central. Tu as des examens à passer dans le mariage. Qu'est-ce que tu crois? Que comme tu es marié, tu es arrivé. Tu as passé les autres examens qui ont fait que tu as dit ripipip par là encore. Maintenant, il y a les autres examens qui sont plus intenses, plus denses, ceux qui sont liés à l'importance, l'épaisseur que tu dois constituer, construire dans une relation fondée par Dieu afin que, au fur et à mesure que le temps passe, tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. Quand tu regardes ton comportement aujourd'hui, tu ressembles à Jésus-Christ. Tu t'énerves pour rien. Tu es impatiente ou impatient. Tu es ultra, hyper irritable. Tu ne pardonnes pas. Tu ne supportes rien. Tu ne supportes même personne. Et tu veux toujours que c'est ce que toi tu veux que les gens fassent. Est-ce que ce que tu veux doit être fait si ce n'est pas la volonté de Dieu? Quelle est même la, qu'est-ce que tu as même en caisse pour vouloir imposer aux autres ce que tu veux? Ta connaissance me met jusqu'où? Est-ce que tu sais que les gens qui ont la connaissance sont patients? Parce qu'ils sont en train de chercher toujours quelle est la méthodologie la plus efficace pour obtenir un bon résultat. Et quand ils commencent à se poser cette question, ils sont obligés de se calmer parce que ça demande de la réflexion. Pour toi, on doit faire comme tu veux. Uniquement comme tu veux. Tu es sûr que si on te laisse faire comme tu veux, là, tu vas y arriver. Donc, tu n'as plus rien à apprendre. Tu es arrivé. Tu as même fait quelle formation? Entre l'école des diplômes, la vie de l'école et l'école de la vie, quel est le critérium principiel qui fonde de l'épaisseur pour toi dans cette affaire? Quelle est la jauge qu'on peut utiliser sur ton cas? Vous avez dépassé vos parents là-bas, vous ne pouvez pas me dépasser. Parce que certains d'entre vous ont grandi mal, comme un arbre qui a grandi tordu, incliné. On se retrouve à Jésus-Christ, il faut qu'il regarde tout droit vertical. Et il pense que ce qui est impossible aux hommes est aussi impossible à Dieu. Les hommes disent qu'un arbre incliné, on ne peut pas le redresser. Dieu peut redresser un arbre incliné. Quel que soit l'âge que vous avez, vous allez apprendre à comprendre comment Dieu veut que vous soyez. Vous allez apprendre à comprendre quelles sont les règles qui sont exigibles dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Car tant qu'on vous laisse faire ce que vous voulez, vous êtes nuisible. Vous vous faites du mal. Et vous faites du mal aux autres. Et ça, c'est un problème. Pourquoi faites-vous du mariage un enfer? Est-ce que vous savez qu'un mauvais mariage est un enfer? Comment est-ce que vous avez même la grâce d'avoir été orienté de façon pointue? À peine vous avez fait une véritable acceptation du choix de Dieu, que vous êtes en train de désintégrer et de déstructurer les contenus de ce que Dieu a mis. À peine vous avez fait une acceptation du choix de Dieu, que vous commencez à combattre tout le bonheur que Dieu a prévu pour vous à travers des comportements destructeurs. Il y en a, ce n'est pas ce qu'ils disent qui pose problème, hein. C'est ce qu'ils pensent surtout. L'esprit de protestation, il y a des femmes minces alors. Avant qu'elle ait compris ce que tu veux dire, elle est déjà en désaccord. Elle proteste en permanence. Mais c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Comment tu peux être une femme qui proteste en permanence dans le cadre d'un foyer? Esprit de protestation, esprit de contestation. Tu fais quoi avec ça? Tu vas où? Tu veux même quoi? L'hypocrisie. La fourberie. Un jour, j'ai parlé ici des femmes qui volent à leur mari. Tu es dans le mariage et tu voles. Certains ont ri. Moi, ce n'était pas un sujet qui m'amusait. Quand tu te retrouves à voler dans le foyer où tu es marié, mais tes problèmes sont sérieux. Où est ton Dieu pour que tu arrives à de telles extrémités? Ton mari n'est-il pas ton ami? Je n'ai même pas encore fini de lire 1 Corinthiens 13. Que vos cas sortent comme ça devant moi comme un grand tableau. Il y a les cas dans ce ministère. Je dis, hein, vous êtes mariés comment? Seulement parce que Dieu a dit de faire. Mais quand Dieu fait le choix et tu dis que tu as accepté le choix de Dieu, quel est ton niveau d'investissement personnel pour densifier le choix de Dieu? C'est Dieu qui fait l'amour à ta femme. C'est Dieu qui fait l'amour à ton mari. Vous êtes même comment? Quel est ton niveau d'adhésion? Est-ce que ton être tout entier, esprit, âme et corps, comme 1 Thessaloniciens 5 verset 23 dit, parce que l'être tout entier, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on peut dire la chose. Mais même là, la science sans Dieu n'y arrive pas. Quand ils examinent le corps, ils disent qu'ils connaissent l'être humain. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quel est ton niveau d'adhésion au plan de Dieu? Quelle est ta participation? Parce que si tu as compris le plan de Dieu dans ta vie, tu dois savoir nécessairement que c'est pour ton bonheur que Dieu t'a mis là-bas. Pour autre chose, c'est pour ton bonheur. Et c'est ça que vous devez savoir. Donc, on te met quelque part pour ton bonheur. Et toi, tu viens, tchakala, tout gâté. Tu ne penses pas que tu es dans une situation délicate où tu dois être sage, mesuré, tempéré, avoir du recul, voir la chose différemment, examiner toute chose, pas avec le mauvais cœur, mais avec l'intention de résoudre les problèmes. Celui qui est dans un foyer constitué par Dieu a seulement le souci d'aider et de résoudre les problèmes. Puisqu'il n'a pas besoin de créer les problèmes, il veut être heureux. Si ton foyer est un enfer, tout va entrer par là. Tout peut arriver. Je veux vous lire le commandement nouveau que Jésus-Christ a donné à ses disciples, qui vous concerne à au moins 100%. Mais il faudrait déjà que l'on soit d'accord sur le fait que quand vous êtes dans un foyer, votre conjoint n'est pas votre ami. Vous êtes en train de vous tromper lourdement. Vous êtes en train de vous faire du mal. Si vous êtes dans un foyer, vous n'avez pas le souci d'aider l'autre. Aider l'autre parce que l'autre comme vous a ses examens à passer. L'autre comme vous a quelque chose à faire. L'autre comme vous doit être meilleur. L'autre comme vous doit être heureux. L'autre doit être heureux. Vous oubliez souvent que l'autre, Dieu l'aime aussi. Quand tu vis avec quelqu'un que Dieu t'a donné dans le mariage, et tu oublies que Dieu aime aussi la personne là. Est-ce que tu sais les malheurs que tu es en train d'appeler dans ta vie? Peu importe ta position sociale, la personne que Dieu t'a donnée, Dieu l'aime aussi. Ça doit être très clair dans ta tête. Comme Dieu l'aime aussi, exprime-lui l'amour de Dieu. Toi aussi, sois un levier pour que cette personne ressente l'amour de Dieu. L'amour que Dieu t'a donné ne t'a-t-il pas inspiré? Toutes les délivrances que Dieu a faites pour toi, les guérisons, les restaurations, les élévations, toutes les fois où il t'a sécurisé sans même jamais rien te dire, tu penses que tu as envie parce que tu es trop fort. Tu penses que tu t'es marié parce que tu es trop fort. Tu ne sais pas qu'on t'avait volé ton mariage. On t'a remis ça. Tu ne sais pas que tu étais stérile. On t'a remis la fertilité. Regarde comment tu es beau comparativement à il y a 2 ans ou 1 an avant. Tu ne vois pas le travail que Dieu a fait sur toi. Tu ne peux pas donner aussi un peu de ce qu'on t'a donné. Oui, tu vas dire que oui, vraiment, je n'ai pas grandi là, on aimait les gens. Maintenant, on t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, tu n'aurais pas le mariage là. Tu ne serais pas là-dedans. Tu as eu un chemin qui est offert. Quelqu'un t'a inspiré. Tu as reçu la bonne nourriture. Tu as consommé la bonne eau, le miel, le lait. Les meilleurs fruits on t'a donné. Te voilà, tu as un emploi. Tu es stable. Tu n'as pas l'inquiétude du lendemain. Te voilà. Les anges de l'Éternel s'occupent de ta santé. Il est difficile que tu tombes malade. Dès que tu as un petit bobo, on arrange. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Qu'est-ce qui t'empêche d'être doux? Et quand tu es une femme, qu'est-ce qui t'empêche d'être douce? Est-ce que vous savez que le mariage est une affaire de gestion quotidienne?
Donc c'est chaque jour qu'il faut travailler à donner un contenu à ce mariage. Je n'ai même pas encore parlé des interférences. Parce qu'il y a les interférences que les belles-mères apportent, les belles-sœurs apportent, les beaux-frères apportent, les beaux-pères apportent. Ça, c'est une autre problématique. Mais j'annonce déjà le sujet en vous disant que ce n'est pas votre beau-frère, votre belle-mère, votre beau-père, votre belle-sœur qui tient, soutient, entretient le mariage. Les chances pour qu'ils soient des parasites sont très élevées. Et qu'ils aient des comportements parasites sont extrêmement élevés. La question principale, et qui est même une question principielle, c'est celle de savoir quel est le contenu communicationnel, fonctionnel de votre relation à Christ. Quelle est la nature de cette relation, individuellement pris, de manière à ce que, quotidiennement, vous soyez nourris, encadrés, inspirés, orientés, renforcés et affermis. Si dans le mariage, tu es dans le mariage, tu ne comprends pas que l'amour, qui est la fondation même du mariage finalement, excuse tout, crois tout, parce qu'il faut, ceux qui ne sont pas dans la foi ne peuvent pas aller loin. Espère tout, ceux qui ne sont pas dans l'espérance en Jésus-Christ ne peuvent pas aller loin. Supporte tout. Tu vas faire comment? Vous allez tenir combien de temps? Or, si vous comprenez que tous les jours vous devez développer la douceur, la tempérance, la patience, la tolérance, le soutien mutuel, tu vois les faiblesses de ta femme. Peut-être elle n'a pas fait l'école. C'est vrai, elle n'a pas fait. Son langage est même peut-être parangangang. C'est pas grave, c'est la femme que Dieu t'a donnée. Tu arranges. Oui, elle n'a pas fait certaines écoles. Elle ne sait même pas gérer la maison. Tu lui apprends, tu enseignes, tu lui montres. D'autres, elle a commencé, la seule chose qu'elle a réussi dans sa vie, c'est croire en Jésus-Christ. Tu dois attirer son attention sur comment ranger sa chambre, comment orner le salon, et tout ce qui va avec. Il y a des compartiments, il y a des réalités, il y a des facteurs. Il faut accepter d'être une aide pour l'autre et d'être une véritable aide pour l'autre. Il y a des femmes, quand elles regardent leur mari, elles voient des manquements, elles voient des insuffisances. Patiemment, tu vois comment améliorer ton homme. C'est ton homme. Ce n'est pas l'homme d'autrui. Il est à toi. C'est le tien. Arrange le produit. Il y a certaines, elles sont sales. Arrange le produit. Apprends-lui à se laver au moins deux fois par jour. Quand tu la regardes comme ça, les yeux dans les yeux. Tu l'appelles comment? Attends, cherche les noms que tu as là-bas. Che, tu l'appelles comment? Che, ou B, quoi, mon poussin. Normalement, je cherche les noms que tu utilises, comment ça? Tu utilises quel nom? Bon, les noms sont très variés, c'est compliqué. Tu l'appelles comment mon nounous? Bon. Chérie, bon, utilisons alors chérie. Chérie, quand tu te lèves le matin, lave-toi. Comme tu sais qu'elle n'a pas appris à se laver, tu lui achètes les gants de toilette. Comme pour les jeux même. Quand elle veut se laver, toi-même, tu entres dans les toilettes, tu dis que tu veux te laver, tu la frottes toi-même, juste comme le jeu, non? Il y a quoi? Elle aussi, elle voit, tu dis que tu veux seulement frotter le dos, mais toi-même, tu sais que tu veux frotter bien. Et tu veux bien frotter tout ce que tu as vu. Qui a mal quelque part si on vient te frotter aux toilettes? Ça fait mal où? Quand tu vois comment arranger le produit, tu restes comme ça. Quand tu bricelles, tu lèves la tête pour dire que, hey, Seigneur, il faut m'inspirer. Toi-même, tu vois un problème que j'ai dans le foyer ici. Elle ne sait pas faire telle chose, elle ne sait pas faire telle chose. Aide-moi. En vérité, qu'est-ce qui se passe quand tu dis ça? Il y a des anges spécialisés. Il y a des anges qui sont spécialisés dans la gestion du foyer. Quand tu pries comme ça, le Père éternel en met un ou deux, ou ça dépend, à ta disposition. Ça fait que tu as les solutions, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Il y a des anges qui gèrent les questions de foyer. Il y a même les anges de paix. Donc, chaque problème que tu observes dans le foyer concernant ton conjoint ou ta conjointe, il y a la solution. Oh, toi aussi. Tu sais que le ciel est constitué comment? Il y a la solution. Elle ne s'est pas préparée. Il y a la solution. Si elle a le don de prophétie, c'est simple. Dis-lui que vraiment, quand tu pries, quand tu veux préparer, prie d'abord un peu. Tu demandes à l'Esprit Saint de t'aider dans la cuisine. Les anges spécialisés en matière de cuisine vont faire qu'elle va mettre les condiments qu'elle ne connaissait pas. Quand elle va même au marché, elle va acheter le type de choses qu'elle ne savait pas. Quand elle se met même à préparer, elle ne comprend pas comment elle a préparé de telle façon ou de telle autre façon. Quand elle te fait le bouillon qu'elle faisait souvent là, ça n'avait pas de saveur. Quand elle vient te donner ça, hein, c'est bon à un niveau supérieur. C'est-à-dire, tes papilles gustatives et ton palais te donnent des informations simultanément sur la saveur. On peut tout arranger. On peut tout arranger. À l'endroit où tu es là, quand tu es dans un mariage voulu par Dieu, on peut tout arranger. On peut tout gérer. N'en doutez jamais. Je vais vous dire une chose. L'un des plus grands mensonges que le monde des ténèbres ait ventilé sur cette planète, c'est de faire croire aux êtres humains que leur vie se passe hors de Dieu et que Dieu est hors de la vie des humains. Ça a été un drame. Ça a été un drame terrible. En fait, tous les compartiments de votre vie sont en Jésus-Christ. Chaque plus petit compartiment de votre vie, si vous commettez de l'erreur de le mettre hors de Dieu, vous êtes fini. Les ténèbres vont vous envahir. Si tu as une femme qui, au niveau du lit, quand elle se couche, c'est comme si elle pense que le lit c'est un abattoir. Le genre de femme qui te dit, ce n'est pas qu'on m'a raconté, j'ai donné des séminaires ici à Douala, vous connaissez. À Douala, à Yaoundé. J'ai donné des séminaires. J'ai vu des gens. Un homme marié depuis 10 ans est venu. J'avais parlé le jour-là, c'était sur le livre qui est là. Vous connaissez ce livre, Vie affective et performance socio-professionnelle. J'ai donné des séminaires, là à la salle des fêtes d'Aqua. À quoi parler, j'ai donné des séminaires dans les grands hôtels. Un homme est venu me dire que j'ai voyagé depuis Boya. Je suis heureux que vous ayez parlé comme ça. Ma femme était là. Ma femme et moi, on a voyagé pour venir suivre les séminaires. On a fait toute une journée de séminaire. Il était déjà 18h. Et dès que ma femme, je monte sur ma femme, elle me dit après quelques minutes que tu as joui, descend. Je le regardais. Vous dites comment au Cameroun que je wandaillais même. Mais ta femme est une prostituée que tu payes, non? Comment ta femme peut te dire que tu as déjà joui, descend? Elle est simple. Vous êtes vraiment marié? Ou bien une prostituée que tu as épousée pour croire, on fasse croire que... Parce que si c'est une prostituée que tu as épousée, ça n'est même pas la même chose. Parce que nous, les prostituées, on les récupère. Nous, on ne juge pas les prostituées. On les récupère, on les sanctifie, on les délivre, on les guérit, on les nyangalise et on arrange leur corps jusqu'à ce que ça redevienne neuf. En 2 ans, elle est pimpante comme si elle n'a jamais fait la prostitution. Non, ne juge pas. Il y a des filles qui sont dans la prostitution parce qu'on leur a fait du mal. Même si c'est que c'est une prostituée que tu as voulu, que tu as épousée. Non. Quand on arrange tout en Jésus-Christ, elle n'est plus une prostituée. C'était le passé, on efface ça. Elle devient ta femme. Elle ne peut pas te faire ce qu'elle faisait quand elle était prostituée. Est-ce que pour moi je pars loin? N'est-ce pas que cette semaine, il y a une femme qui a témoigné sur le fait que le travail que je fais de nettoyage sur tout le peuple à l'échelle internationale, même les nettoyages de ceux qui ne connaissent pas des Redensnack, parce qu'ils sont seulement les membres de famille, elle a vu ça sur son corps. Elle a dit, je dis ce qu'elle a dit, que son vagin s'est refermé au point où son doigt n'arrive plus à entrer. Donc, elle a même retrouvé sa virginité physiquement. On a tout arrangé jusqu'à ce que on a dit que le produit est apprêté pour le mariage. Quand son mari va venir, il va vouloir entrer, il va trouver que c'est fermé. Il sera convaincu que jamais personne n'est passé là-bas. Il y a quoi? Nous, on n'a pas les sujets tabous, on n'est pas comme vous. Vous aimez faire les choses dans le noir, en fermant les rideaux, en éteignant la lumière. Vous fermez les rideaux. Nous, on voit les choses noires, même dans le noir. Vous allez vous cacher devant qui? Donc, même si c'est que c'était une prostituée avant, on arrange tout, on redresse ses seins, on filtre son sang, on refait sa peau, on refait sa chair, on refait son visage, on refait les cheveux. C'est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, il peut tout faire. On refait les fesses là, même les seins qui étaient devenus babouches, on arrange. Le ventre qui tombait à cause des autres grossesses, on arrange. On resserre tous les tissus. On met les tissus neufs. On remplace ce qu'il faut remplacer. Même si c'est que ta femme ne sait pas se comporter au lit. Elle se comporte seulement comme si on l'a crucifiée dans le lit. Elle tombe là comme ça. Elle écarte les mains, elle écarte les pieds. Tu lui dis que non, chérie, ce n'est pas comme ça. Le lit, si c'est le lit conjugal, ce n'est pas un abattoir. Il y a les préliminaires. Il y a le contact. Il y a les caresses. J'aime quand tu fais ceci. Je n'aime pas quand tu fais ça. Hein? Quand tu fais ceci, ça me plaît plus. Quand tu mords ici, je n'aime pas. J'utilise plutôt la langue. Ou les lèvres. On vous a enseigné même quoi? Je dis, hein, vous avez les gens qui disent que... Vous avez des gens qui disent que... Il y a certaines caresses qui sont interdites en Jésus-Christ. Ils vous ont balancé ça dans la tête. Ils ont appris ça où? Je dis ça aujourd'hui, tendez bien les oreilles, parce que je sais que vos oreilles sont tendues. Augmentez encore le diamètre des oreilles, de vos oreilles. Dans le cadre du mariage, lorsque vous êtes marié, pas dans les histoires de fornication, dans le cadre du mariage. Lorsque vous êtes marié devant Dieu, il n'existe pas de caresse interdite. C'est lorsque vous sortez du cadre du mariage que c'est un péché. La fellation et le cunnilingus sont des caresses permises, autorisées, qui ont pour but de contribuer au bonheur conjugal. Vous devez savoir, à partir de ce moment-là, que la problématique centrale est la problématique de la légalité. Celui qui est dans le mariage est dans la légalité. Il y a des interdits, par exemple, qui sont tels que on ne peut pas se permettre au nom du mariage de pratiquer la pénétration anale. Les sphincters du rectum ne sont pas prévus pour la pénétration. Et la pénétration anale est un acte satanique, que ce soit dans le cadre du mariage ou hors du mariage. Mais il n'y a pas de caresse interdite dans le cadre de mariage et il n'y a pas de vêtements interdits dans le cadre de la maison. Si la femme veut porter le string dans la maison, devant son mari, qu'elle porte ça. Si elle veut se balader les seins en l'air dans la maison devant son mari, qu'elle se balade les seins en l'air. Donc, il faut nécessairement comprendre le cadre légal par rapport à cette affaire et comprendre l'importance de l'éducation mutuelle dans le cadre du mariage. La femme éduque son homme d'une manière ou d'une autre. L'homme éduque sa femme d'une manière ou d'une autre parce que chacun a un rôle indispensable et incontournable. Il y a des choses qu'une femme peut enseigner à son mari discrètement et en douceur. Ce n'est pas la force. Qui t'a dit que parce que tu es un homme, tu ne vas pas aider ta femme à la cuisine? Qui t'a dit que parce que tu es un homme, tu ne peux pas apprendre deux ou trois trucs, ne serait-ce que pour lui plaire à la cuisine? C'est l'affaire d'amitié. Quand vous arrivez à être des amis, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Oh, regardez les vieux mariés. Si vous regardez le comportement des vieux mariés, ce n'est plus l'amitié. À un certain stade, le mariage devient une affaire de fraternité. Donc quand tu regardes les deux se comporter, on dirait que c'est frères et sœurs. Ils se connaissent, ils se comprennent mutuellement. Parfois même sans dire mot. Parfois un regarde seulement l'autre. Et l'autre comprend que il faut décaler. Applaudissez d'abord pour les vieux mariés parce que ça c'est quelque chose. Ils ont un niveau de bénédiction. Quand vous voyez un vieux couple, vous voyez la bénédiction de Dieu sur eux. Parce que seule la bénédiction de Dieu peut faire qu'un couple reste là. 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Jesus Christ is Lord. J'ai tellement de choses à vous enseigner. Vous croyez que quand les gens sont ensemble depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y a pas eu de problème. Ou il n'y a même pas eu de problème d'infidélité ou de trahison. Mais votre génération aussi, où on casse et on jette, ce n'est pas la génération d'avant. En Afrique, les femmes sont éduquées, élevées pour protéger leur mariage. Pas pour divorcer. La parole de Dieu est une source d'inspiration intarissable. On était en train de dire que la charité excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Je passe au verset 8 de 1 Corinthiens 13. La charité ne périt jamais. J'ai dit que quoi? L'amour ne périt jamais. Quand ton amour commence à s'éteindre comme ça, c'est parce que tu n'as pas Dieu. Parce que quand on va regarder parfois le fond de votre problème, il n'y a même pas de problème. Mais tu n'as pas Dieu, tu t'es écarté de Dieu, tu as voulu gérer le mariage sans Dieu. L'Esprit Saint peut inspirer beaucoup de choses. Achète tel cadeau à ta femme. Offre tel truc à ton mari. Mets tel vêtement, ça va lui faire un truc. Touche-le à tel endroit. Oh, toi aussi. Tu n'as pas vu que tout le corps là, c'est comme un piano. Il faut seulement savoir toucher le bon endroit pour produire la bonne symphonie. Pourquoi tu es toujours en train de chercher les choses sur le sein gauche alors que c'est le sein droit qui est plus sensible? C'est comment même avec toi? Il y a des secteurs. Chaque organisme a des millions de terminaisons nerveuses. Il faut explorer le corps de son conjoint méticuleusement et patiemment pour découvrir quelles sont les zones de symphonie les plus satisfaisantes. Parfois, ça peut être le gros orteil gauche ou l'oreille droite. D'autres, même, c'est la nuque. Pourquoi tu n'as même pas exploré la colonne vertébrale? Toi aussi, oh! Il y a certains problèmes qui peuvent se résoudre si tu la chatouilles seulement. Elle va rire, elle ne va plus penser à l'autre problème là. Tu as dit bonjour à ses côtes, même avec un petit bisou. On vous raconte tellement de sottises. Moi, je ne comprends pas. Hein. Est-ce que vous savez que d'un point de vue scientifique, le nombre de terminaisons nerveuses sur les fesses d'une femme sont équivalentes au nombre de terminaisons nerveuses sur les fesses d'un homme? En d'autres termes, malgré l'hyper-attention que vous avez sur les fesses des femmes, les fesses des hommes ont la même sensibilité. C'est quoi même avec vous? Quand vous êtes déséquilibré comme ça? Dans le mariage, on joue. Dans le mariage, on jouit du mariage. Dans le mariage, on dialogue beaucoup. On dialogue beaucoup. On communique beaucoup dans le mariage. Lorsque dans le mariage, tu ne communiques pas. Tu ne parles pas de toi et ton mari. Chaque chose, tu dois garder dans un coin. Ce sont tes malheurs que tu cherches. Tu es marié, tu ne causes pas être ton mari. Dès le matin, tu dois commencer à lui dire que, chérie, j'ai eu telle vision. J'ai vu telle chose, j'ai vu telle... Ça commence par les visions. Avant que vous leviez du lit, petite prière. La causerie. Vous causez du matin jusqu'au soir. Hein? Dans un mariage, on cause. Causer. Qu'est-ce que vous gardez chez vous? Qu'est-ce que vous gardez en vous? Chaque petite chose. Dans un mariage, on raconte les histoires. Pourquoi vous ne racontez pas les histoires à vos maris? Sur le passé. La famille. C'est quel mariage où vous êtes entré comme ça que personne ne connaît ton passé. Il n'arrive pas de temps à autre. Comme ça pour rien. Comme ça pour rien que tu parles de l'affaire. Oh, tu sais, à l'époque, j'étais allé avec ma mère à tel endroit, et tu seras. Ah, vraiment, ce que j'ai vu là, ça me rappelle, hein, quand j'étais avec mon père. Oui, tu sais, vraiment, à la maison, c'était... Dans le mariage, il y a les histoires qu'on doit raconter tous les jours. C'est comment avec vous? C'est des choses comme ça que vous devez savoir. Je demande aux séraphins de travailler sur vos têtes maintenant. Parce que ce que vous êtes en train de recevoir là, la tête là doit bien recevoir. Vous tous qui êtes en train de recevoir, je demande aux séraphins de travailler sur votre tête. Vous tous. Mental, intellect, système nerveux. Et je demande à l'Esprit Saint de charger puissamment vos cœurs de lumière et de changer les cœurs de ceux qui sont dans de bonnes dispositions aujourd'hui. Parce que c'est l'heure de la délivrance aujourd'hui. C'est l'heure de la restauration aujourd'hui. Que tout ce que le camp ennemi a fait dans votre tête, votre mental, intellect, système nerveux, sorte à l'instant. Et tout ce que le camp ennemi a mis dans vos cœurs, que ça sorte maintenant. Dans cette affaire de mariage, j'ai dit que c'est la deuxième partie, mais je sens que vraiment, je dois revenir en troisième partie de vous parler de cette affaire sienne. On dit que la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, dans ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. Donc, l'amour. Mais mes enfants, j'étais en train de parler de sexe tout à l'heure. Certains ont sursauté. Que voilà. On comprend pourquoi son fils vient souvent nous frapper ici avec les enseignements qui nous dérangent. Lui-même, il est venu nous parler de ça. Mais c'est mon fils, non? Vous croyez que quoi? C'est mon fils. Mon fils doit parler. Nous, on n'a pas de tabou ici. Et on va écrire les livres sur ça. Comme il a parlé, vous allez dire que comment il peut parler de ces choses. On a aux échauffements. On va faire les conférences publiques et même les séminaires dessus. Causerie éducative. Parce que certains, ils pensent que je blague sur ce sujet. Ou bien il croit que la Bible n'a pas parlé de ça. Attendez, je vous lis la parole de Dieu. On reste dans 1 Corinthiens. Il y a quelque chose à vous lire. Ils ont gardé, rendu dans le sous-quartier, avec leur mère qui était incapable de leur donner des conseils, même ne serait-ce que pour savoir comment compter son cycle. Il y a des femmes ici qui comptent leur cycle à la fin des saignements. C'est normal qu'elles soient tombées enceintes, puisqu'elles ne savaient même pas quand elle a péré féconde. En Corinthiens 7, le verset, attendez, je cherche, c'est verset 5, voilà, c'est ça même, en Corinthiens 7, le verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous voulez que j'interprète? La femme qui ferme les cuisses à leur mari, là, elle pense même que quoi? Quand tu fermes les cuisses à ton mari, alors qu'il n'y a pas eu d'accord sur le fermage des cuisses, tu as lu 1 Corinthiens 7, le verset 5. Hein? Vous ne savez pas. Attendez, je viens. 1 Corinthiens 7, le verset 3. C'est le même sujet. Hein? Et certains ne savaient pas que je savais où j'étais quand je parlais de sexe et de sexualité. 1 Corinthiens 7, le verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Quand tu fermes les cuisses là, tu as lu 1 Corinthiens 7, le verset 3 à 5. Hein? Tu as lu? Elle met d'abord le gros caleçon. Après avoir mis le gros caleçon, elle met le collant. Après avoir mis le collant, elle met le pyjama, le long truc là au-dessus. Parfois même, tu te dis, quand tu dors en jean, tu dors bien. Le jean là, il te sert pas. Seulement parce que tu veux faire un problème à ton mari. Tu n'as pas honte. Tu es même simple. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu t'attrape? Il y a les hommes ici, ils sont nuisibles. On t'a équipé pour ta femme, tu passes le temps à dire je suis fatigué, tu causes. Comment tu peux la laisser en jachère longtemps comme ça? Et ça c'est bien. Tu as lu 1 Corinthiens 7, le verset 3 à 5. Tu es fatigué en permanence. Tu viens même te laver, on t'a fait à manger. Elle a mal préparé. Vous me cherchez souvent les problèmes qui vont vous dépasser. Vous ne savez pas que je suis là. Hein. Je suis avec vous. Hein. Donc vous pensez que vous êtes caché, je suis présent. Hein? Quand tu as tes problèmes là-bas, tu viens me déranger le foyer avec ça. Tu déranges le foyer. Il faut faire les livraisons, dis donc. Dérange pas les gens. Et tu fais ça bien. Mais si tu ne fais pas ça bien, on voit que tu as fait sans amour. Tant pis pour toi. Attends. Aujourd'hui, là, j'ai ton macabre. On vous met dans le mariage, vous commencez à gâter le mariage. C'est pour ça qu'on vous a mis dedans. Tu dois savoir que tout ce qui est fait sans amour est péché. Et tout ce qui est fait sans conviction est péché. Les enfants, c'est... Vous ne savez pas. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. On a dit de lire tout. Certains sont nonchalants, ils ne veulent pas. Romains 14. Vous allez apprendre à comprendre que Dieu est dans tous les compartiments de votre vie. Romains 14, 23. Vous pensez que vous êtes malin, vous êtes malhonnête dans le foyer. Vous êtes malhonnête dans le foyer où Dieu vous a mis. On ne vous voit pas. La facture sera élevée, hein. Tant un peu que tu lises ça. Et tu as du mal à trouver. Je dis que Romains 14, 23. Moi-même, j'ai la Bible en main. Faites le désordre. D'abord, qu'est-ce qui est écrit? Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Mais on ajoute, Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est écrit. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tu fais l'amour à ta femme comme si on t'avait puni seulement. Alors que nous, on peut tout arranger. On peut modifier la structure de vos organes de reproduction, la taille, les volumes et les formes, juste pour votre confort. Nous, on redresse les seins dans ce ministère. Est-ce qu'on a encore à démontrer ça? On a redressé les seins, les gens ont vu. On redresse tout, tout. Tu ne vois pas l'intervention physique. On donne les bonnes tailles. Ce qui était court, on allonge, c'est bon. Ce qui était trop mince, on grossit. Ce qui était trop large, comme c'était le centre de natation, on rétrécit. Pour que les gens n'aillent pas se perdre là-bas. Non, on gère tout. On gère les tailles, les formes, les densités, les structures, on fait tout. Et on te donne tout ça. Tu pars là-bas gérer le dossier, sa conviction. Tu es simple. Tu es même normal. Tu dois faire l'amour avec conviction. Ce n'est pas une punition. Tu dois te préoccuper quand tu fais l'amour à ton conjoint, de ce qu'il soit satisfait. C'est ça l'affaire. Tu dois te préoccuper de ce qu'il soit satisfait. Tu fais ça bien. Tu t'appliques. Il aime les cours dessus. C'est, au lieu de prendre les cours, les bons enseignements, savoir comment on fait, tu pars regarder les pornos. Qu'est-ce que tu as allé regarder les films pornographiques? On n'enseigne pas à faire l'amour dans un film pornographique. On apprend à choisir la femme dans un film pornographique. Ces choses-là ont pour but d'avilir la femme. La rendre à un stade d'objet, de choses. Sans compter maintenant les esprits qui sont agrippés à ça. Sans compter que on t'apprend à te masturber là-bas. Tu as les esprits de masturbation, tu as les esprits de pornographie. C'est comme ça que le dévoreur entre dans ta vie. C'est comme ça que l'impuissance entre dans ta vie. C'est comme ça que l'esprit de débauche entre dans ta vie. C'est comme ça que l'esprit de prostitution entre dans ta vie. C'est comme ça que l'esprit de séduction entre dans ta vie. Parce que tu es allé ouvrir les grands yeux sur les pornos. On t'a vendu. Tu es dans un mariage et tu regardes le porno. Vraiment. Aujourd'hui, là, parce que je vous connais, dans vos téléphones, les ordinateurs et les CD qui sont là-bas que je vois dans la chambre, surtout certains sont dans les tiroirs au salon, allez brûler ça aujourd'hui. Vous enlevez tout ça. Je ne veux plus voir ça. D'autres sont cachés au bureau. Parce que je crois qu'au bureau, tu es trop caché. Les sites où tu entrais là, je ne veux plus voir ton œil là-bas. Les sites internet où tu entrais. Tous les téléchargements que tu as fait, tu supprimes tout ça. Et tu te confesses. Avec toutes les photos. Comment tu es en Jésus que tu as les photos porno dans ton téléphone? Dans ton ordinateur. Tu penses que tu es trop caché. Après ce que tu as fait, vu dans le porno, c'est ça que tu vas aller faire sur ta femme. Ta femme est une chienne. Tu ne la respectes pas. Tu veux passer par les entrées interdites. C'est là-bas que ça se passe, la reproduction. Il faut faire très attention à moi. C'est parce que vous n'avez pas étudié la parole de Dieu que vous ne savez pas que nous sommes dans tous les compartiments. Appliquez-vous. Quand tu causes avec ta femme, cause avec ta femme en sachant que elle est délicate, elle est fragile. Elle n'entend pas toujours comme toi. Donc cherche les mots qui permettent qu'elle comprenne ce que tu veux qu'elle apprenne. Il y a des femmes ici, quand tu dis une chose, tu as fini de parler et elles sont nombreuses. Presque toutes sont comme ça. C'est là où tu la vois comme ça, elle dit que donc, ça veut dire que la femme est déjà en train d'interpréter à cause du ressenti. Elle est déjà hors sujet depuis. Donc, fais attention quand tu parles à une femme. parle à une femme de manière à ce que son ressenti n'ait pas la chance de s'exprimer beaucoup. Cherche les mots qui permettent à son ressenti de rester calme. La femme ressent. Je vous ai pas déjà donné la configuration là depuis. D'accord. Faisons comme s'il n'avait pas donné ça avant. Je recommence. Je vais vous donner la parole de Dieu. Aujourd'hui là, vous aurez la parole de Dieu. Je vais te donner le passage. On prend Éphésiens. Éphésiens 5, le verset 22. Colossiens 3, le verset 18. Commençons par Éphésiens 5, 22. Je vais donner l'enseignement là aujourd'hui. Et les enfants s'y dérangent. Vous êtes dans les mariages. On vous prépare. La salive, heureusement que ma salive ne peut pas finir. Mon père a donné la salive là de façon durable. Tu parles. Ils sont seulement les gâteurs professionnels. Ils ne peuvent rien arranger. Ils ne veulent pas arranger. On commence par Éphésiens 5, 22. Et Éphésiens 5, 22 correspond à Colossiens 3, 18. Je redonne. Éphésiens 5, 22 correspond à Colossiens 3, 18. Commençons par Éphésiens. J'ai une configuration à vous donner là-dedans. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toutes choses. Je n'ai pas fini. On vient déjà de lire le Éphésiens 5, 22 jusqu'à 24. On passe à 25. Tendez bien vos oreilles. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de sacrifier, de sanctifier par la parole, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. On n'a pas dit à la femme que femme aime ton mari. La femme est là. Ce n'est pas compliqué. On a dit à la femme, soumets-toi à ton mari. C'est quel genre de femme que vous êtes qui ont les protestations, la désobéissance, l'orgueil, la contestation, la rébellion dans le foyer? Le mari là, c'est lui que Dieu t'a donné, oui. C'est vrai. L'homme de Dieu avait confirmé. D'accord. Pourquoi tu es dans la rébellion? Pourquoi tu fais la contestation? Pourquoi tu es dans les protestations en permanence? On t'a donné celui-là pourquoi? Pour que tu le tortures. Pourquoi tu es dans la désobéissance à tous les virages? C'est comment avec toi? J'ai dit ça parce que certains ne veulent pas souvent lire. J'ai dit, vous prenez Éphésiens 5, le verset 22, jusqu'à 26. Pourquoi vous arrêtez à 25? Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer l'homme. Parce que ce n'est pas difficile pour la femme d'aimer. La femme aime pour rien. Même avec les arguments idiots, la femme aime. Il est trop beau, papa. Je l'aime beaucoup. Il est trop beau. Un bandit. C'est un bandit. Tu dis qu'il est trop beau. Qui t'a dit que c'était au programme? Le gars avec qui tu sois était un bandit. Ton argument, c'est qu'il est trop beau. Je l'aime trop. Il me fait trop rire. Ah bon, d'accord. Ah oui. T'as besoin d'un amuseur public comme mari à vie. Il me fait trop rire. C'est comme ça qu'on vous entube souvent. Et comme certains gars ont compris ça, ils mentent comme ils respirent aux femmes. Ils mentent. Quand ils te saluent, ils te mentent. Et beaucoup de femmes sont comme ça. Donc aimer, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas ça qu'il faut demander à la femme. On a demandé à la femme de se soumettre. Ton mari est en Jésus-Christ avec toi, oui. Soumets-toi à lui. C'est le commandement qui t'a été donné. Parce que la question est importante. Est-ce que vous êtes ensemble en Jésus-Christ? La réponse est oui, ok. Vous deux, vous êtes des adorateurs, ok. Soumets-toi à lui. Les femmes sont là, elles ne savent pas que ce qui les attire, ce n'est pas ce qui attire les hommes. La femme a besoin d'être aimée. Entendez bien, ouvrez encore grand les oreilles. La femme a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être désirée. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Et la femme a besoin qu'on la laisse parler. Moi, je vous dis aujourd'hui, quand la femme ne parle pas beaucoup, elle ne sort pas ce qu'elle a dans le cœur, elle n'est pas en paix. Il faut trouver le moyen de faire sa sortie. Sinon, vous aurez des problèmes dans la maison. Et tu as une femme, il faut qu'elle sente que tu l'écoutes. Même si après tu apportes des corrections et tout ce qui va avec. C'est important pour elle. Elle a besoin de sentir que tu l'aimes. Tu reviens avec le chocolat blanc, avec la glace, avec les croissants, avec un petit quelque chose. Avant d'apporter ça, tu demandes à l'Esprit Saint de sanctifier. Certains hommes sont même comment. Mais vos femmes, ce sont des enfants. Ne regarde pas la taille là, elle, les grosses fesses, les seins et tout ça. Ou les grosses cuisses, ou je ne sais pas encore quoi, les longs cheveux, qu'elle a 30 ans ou 25. C'est un enfant. Oh, toi aussi. J'ai là comme un enfant. Ça ne va pas changer. L'enfant, on le traite doucement. On ne violente pas l'enfant. Quand tu violentes l'enfant, c'est que toi, tu es en train de compliquer ta vie. Et doucement. Tu demandes que tu as compris, bébé. Pas l'autre appellation. Bébé. Aidez. Demande. Tu as compris, bébé. J'ai compris. Tu n'as pas de questions. Il faut être doux envers les femmes. Tempéré, mesuré, attentif. La femme doit sentir comme l'enfant que quand elle parle, tu l'écoutes, tu es avec elle. C'est important. On a dit à l'homme d'aimer la femme. On a dit à l'homme d'aimer la femme et à la femme de se soumettre à son mari. Pourquoi? L'homme, si tu veux montrer-lui l'amour, en 10 tonnes, 100 tonnes, 1000 tonnes, ça ne lui fait pas grand-chose. L'homme est sensible au respect. Si tu respectes l'homme, il est content. La meilleure manière de chasser un homme, c'est de lui montrer le mépris. Même si c'est le mari que Dieu t'a donné, méprise-le. Tu auras des problèmes personnels avec Dieu. Parce que quand il va partir, ou bien quand il va commencer à te tourner le dos, Dieu lui-même va te dire que c'est de ta faute. Va arranger. On ne méprise pas un homme. Regardez les comportements même des enfants. Les enfants garçons qui ont 5 ans. Regardez comment ils sont réactifs. face à certaines choses. Un enfant de 5 ans, si tu lui montres le mépris, il réagit mal. Un garçon, la fille, ça ne lui fait rien. Le garçon, pendant que la fille est dans ces choses de Nyanga, tout ça là, un enfant de 5 ans peut déjà te dire qu'il m'a manqué de respect. Un garçon. Et parce qu'il y a un logiciel intégré qui sait que c'est comme ça qu'il réagit. Alors que la fille, elle veut qu'on la porte, elle doit jouer la belle. Sa démarche même, déjà, elle aime là, les déhanchements à 6 ans. Le déhanchement que tu vois chez les filles, elle a déjà ça. Mais si elle est programmée, c'est un programme, c'est un logiciel. Elle a besoin de tendresse. Elle a besoin de sentir qu'elle est en confiance. Alors, si vous avez compris ça, les femmes doivent donc savoir que dans un foyer en Christ, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de protestation. Il y a d'abord une acceptation directe et instantanée de ce que le mari a dit. S'il y a des corrections à faire, l'Esprit Saint est présent et disponible. Va gérer avec l'Esprit Saint. Il y aura la démarche. Le mari même, l'Esprit Saint peut lui parler. L'Esprit Saint peut utiliser même l'homme de Dieu, qui est son supérieur hiérarchique, ou un ange, pour lui dire que telle chose, il faut arrêter. Ce n'est pas bon, ça détruit. Quand tu acceptes le droit, le choix de Dieu, vous avez donné un enseignement sur l'acceptation du choix de Dieu. Certains n'ont pas compris jusqu'à quel point c'était important. Quand tu acceptes le choix de Dieu, tu dois savoir qu'il y a une dynamique verticale et des dynamiques horizontales à entretenir. Et tu dois toujours savoir que le Père éternel, le Créateur, le Père de la totalité est toujours disposé à aider. Ce n'est pas que c'est facile. Je n'ai pas dit que c'était facile. Il y a beaucoup de femmes qui sont des adoratrices, qui sont déjà dans des foyers ou qui vont se marier cette année, qui ont des infirmités criardes. Mais on va arranger, on travaille, on est là pour ça. Toi, tu acceptes. Si tu ne sais pas pour qui supporter ton conjoint que Dieu t'a donné, si tu ne sais pas pour qui supporter ta conjointe que Dieu t'a donné, fais-le pour Dieu. Pour Jésus-Christ qui t'aime, qui t'a démontré l'amour, qui t'a prouvé l'amour, qui a exprimé l'amour, fais-le. Et tu vas voir quelque chose d'extraordinaire apparaître. Tu vas voir votre foyer s'arranger. Tu vas voir des situations improbables apparaître en ton avantage. Tu vas voir le cœur de cette femme changer. Si c'est que son problème c'était la saleté, elle va devenir propre. Si c'est que son problème c'est qu'elle s'habillait mal, elle va apprendre à bien s'habiller. Si son problème c'est que tu ne voyais pas la beauté sur sa peau, la peau la va arranger. Toi aussi, ça nous demande seulement quelques semaines, parfois quelques mois ou plus, on va arranger. Non, on remodèle tout, non, pas de problème. Nous, on est à l'usine, on fabrique. On va tout changer. Si le problème, c'est que son ventre est gros, on va baisser le ventre là, toi aussi. On va aplatir ça. On va enlever, elle va avoir une délivrance, on va... Si le problème, si tu dis que ses seins tombent, bon, c'est pas grave, on va arranger, toi aussi. Patiente. On fait une délivrance, on resserre tous les tissus, on soulève. Ou c'est trop difficile à resserrer, on lui donne une nouvelle poitrine. Au bout de quelques semaines, tu vois comment c'est monté. Ça commence à dire, moi monsieur. On peut arranger. Si c'est que quand tu regardes, c'est mon vieux te dérange. L'esprit qui volait les cheveux là. Au prétexte que non, elle a utilisé les mauvais pots, tout ça. En fait, c'est un esprit qui se nourrit des cheveux. L'esprit qui volait ses cheveux là. On le tue, on le massacre. On lui restaure ses cheveux. L'endroit où elle avait les mon vieux, les cheveux commencent à pousser. Si c'est qu'elle avait une mauvaise odeur, on enlève la mauvaise odeur. On lui donne une bonne odeur, même une bonne haleine. Et pendant qu'on est en train de faire, tu te rends compte seulement qu'elle sent le bébé. Et là, on parle du cas de l'autre, que pour toi-même était simple. Quand tu es allé aux toilettes et puis ça sentait mauvais, que ce n'était bon, c'était pas aussi difficile chez toi. Tant que tu n'as pas eu les délivrances difficiles. C'est comment? Quand tu développes l'intolérance comme ça, c'est comme si toi-même, tu étais déjà trop propre. Tu étais Jésus-Christ lui-même une fois. Dès le départ. Plus de chez plus même. Non. C'est pas comme ça. D'accord? Donc, tu te calmes. Tu ne cherches plus les défauts. Quand tu la regardes ou quand tu le regardes, tu cherches les qualités. Tu vas chercher les défauts. Quand tu regardes, ne te demande pas qu'est-ce que je gagne. Non. Demande-toi qu'est-ce que je peux lui apporter. Comment je peux l'améliorer? Comment je peux le rendre plus performant? Comment je peux l'aider? Faites bloc dans la prière. Toujours. Un couple qui est solide dans la prière est imbattable. Imbattable. Quand la femme est une véritable intercesseuse, ce qui a dépassé l'homme ne peut pas la dépasser. Elle va aller dire au père, même si c'est pour, il va aller ça l'attraper par la robe que papa, ça ne va pas dans mon foyer. Ouais. C'est toi qui m'as mis là-bas, non? Fais alors quelque chose. Tu es le père d'amour, non? Tu es le papa faroteur, tu es le père des solutions, non? Regarde comment tu es paisible. Je veux que même mon mari soit aussi paisible comme ça, non? Regarde comment tu es paisible. Tu veux pas que moi-même j'ai la paix que toi tu as? Quand la femme s'en va toucher Dieu pour un problème dans le foyer, le problème là va être résolu seulement. Ça va seulement se résoudre. Le comment appartient à Dieu. Tu n'as pas à te demander que comment il a procédé. Il va toucher à un endroit, toucher encore. C'est le fabricant. Il a la source. C'est lui qui connaît la structure moléculaire, subatomique et atomique du réel. Il va arranger. Tu vas voir seulement le comportement a changé. Tout va bien. Chacun d'entre vous a encore besoin de délivrance. Certains doivent être délivrés des esprits de séduction. Tu es dans un mariage, mais tu as encore l'esprit de séduction. Tu vois ça. On doit t'enlever ça. D'autres ont des esprits de fornication. On installe le camp ennemi, met ça pour gâter le foyer. D'autres ont des esprits d'adultère. Si tu ne pries pas, le jour où on va attaquer ton conjoint ou ta conjointe avec l'esprit d'adultère, tu vas venir, tu vas crier, oh, elle m'a trompé, il m'a trompé. Non, on lui a fait ça. On lui a fait ça. Tu n'étais pas vigilante. Comme tu n'es pas très serré dans ta prière, quand on lui a fait ça, l'Esprit Saint ne pouvait pas te parler. Tu ne voulais pas l'écouter. C'est ça qui a fait qu'il te trompe. Même ça, on peut gommer. On arrange. On peut effacer ça. Tu demandes à Dieu, il va faire. Je dis que tu demandes à Dieu, il va faire, il va effacer la douleur là, il va sauver votre foyer. Puisque ce n'était pas volontairement, on l'a manipulé. Il y a les esprits de manipulation mentale, il y a même les esprits d'hypnose ici dehors. C'est grave au niveau spirituel et ça se matérialise s'il n'y a pas de contre-mesure. Tu vois ta personne que tu connais, qui est ton ami, qui commence à se comporter bizarrement. Ta personne, ta femme, ton mari. Change de comportement. Mais on est en train de le manipuler. On lui a donné une autre femme spirituellement. C'est pourquoi son comportement a changé. Mais si tu ne pries pas, l'Esprit Saint ne va pas te dire, prie contre la femme spirituelle. Prie. C'est la femme spirituelle qui est en train de gâter votre foyer. Prie contre le mari spirituel. C'est le mari spirituel qui est en train de gâter votre foyer. C'est comme ça. Parfois, il a de mauvaises fréquentations. Prie contre les esprits qui l'amènent dans les mauvaises fréquentations. Parce que si tu es vraiment en Jésus-Christ, il est difficile que tu aies beaucoup d'amis. Quand tu as beaucoup d'amis, tu n'es pas en Jésus-Christ. Parce qu'à un stade, ta rigueur, ta discipline vont faire fuir certaines personnes. Ils vont venir avec l'esprit de jalousie sur toi. Ils vont commencer à demander que comment tu as rajeuni. D'autres membres sont jaloux seulement parce que ta femme et toi, vous vous entendez bien. Tu te rends compte. Donc, si vous n'êtes pas constant dans l'effort de prière, écoutez les enseignements, lis la parole de Dieu, toujours être là, entretenir la relation avec l'Esprit Saint. Oui, l'ennemi peut entrer, personne ne va te dire, et ce sera de ta faute. Parce que si tu étais assez proche de l'Esprit Saint, on allait te dire. Si tu étais attentif, on allait te dire. Tu es homme de Dieu, tu ne pries pas sur ta femme. Comment tu vas savoir les choses qui sont cachées dans son corps? Tu dois déclarer sur elle, matin et soir. Donc, toutes les 12 heures, tu dois vérifier l'affaire là. C'est la sécurité. C'est en faisant ça, c'est en étant chaud que l'Esprit Saint aussi est chaud. Et c'est l'Esprit Saint qui assure votre sécurité. Puisque le premier élément de sécurité, c'est l'information. Qu'on ne vous dise pas n'importe quoi. Tous ceux qui connaissent la guerre, toutes les formes de guerre savent que c'est à travers l'information qu'on a la sécurité. Si tu as la bonne information, tu as les solutions. Surtout chez nous au ciel, c'est comme ça. Hein? Nous, dès qu'on a les informations, on a les solutions, on peut résoudre tous les problèmes. Donc, vous voyez combien l'élan quotidien dans le mariage doit être entretenu. C'est tous les jours qu'il faut travailler. Il n'y a pas de jour où tu vas montrer de la négligence à l'endroit de ta femme ou de ton mari. Quand tu regardes ses orteils qui sont sales, tu ne peux pas prendre le truc de taille ongle et tout ça là, tu coupes ses ongles. Toi aussi. Ou tu vois les plantes de pied qui ont déjà les croûtes. Tu ne peux pas mettre ça dans l'eau tiède citronnée, ou même avec le miel, c'est pas, l'eau tiède citronnée salée. Elle met les pieds là-bas, tu frottes, tu enlèves les croûtes là. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour lui-même. Tu peux faire ça pour lui. La femme a une affaire qui est telle que quand elle aime, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer à la femme. Quand la femme aime, ça se sait, ça ne se cache pas. Elle est inspirée plus. On appelle ça inspiration, puissance, haine. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? C'est parce que il y avait déjà un programme sur l'affaire là. Lorsque il y a le péché originel, après le péché originel, il y a des décrets que Dieu a signés sur la vie de l'homme et de la femme. Et ce qui a été dit à la femme par rapport à l'homme, c'est que elle portera toute son attention sur l'homme. Quand une femme est amoureuse, si elle aime son mari, tu ne demandes pas l'autre là. Chaque fois c'est B, C, elle fabrique tellement de noms. Dou, c'est doux, non? Je dis, je suis avec vous, hein. Il n'y a pas de cachette. Partout où vous êtes là. Aujourd'hui là, personne ne peut se cacher. C'est aujourd'hui que vous allez découvrir que l'endroit où vous êtes caché, c'est là où moi-même je dors. Quand on lit la Genèse, je pense que c'est dans Genèse 3. On dit que la femme, elle aura toute son attention portée sur l'homme. Donc, quand la femme aime, et si vraiment elle aime, ce n'est pas compliqué d'exprimer son amour. Son imagination augmente. Elle commence même à faire les make-up. Oh, n'achetez plus les mèches brésiliennes. Laissez comme ça, entretenez. Nous, on peut faire quand même. Il y a les méthodes naturelles. Quand vous allez prendre les choses qui ont été dédicacées à des divinités. Oh, toi aussi. Traite bien tes cheveux. On va arranger. « Fais le make-up si tu veux, mais légèrement. Pas le genre où, si on te fait câlin, c'est fini. Toute la chemise a déjà changé de couleur. Mets un peu de gloss. N'a pas besoin de mettre sa maillage, que ce soit les phares. La femme doit quand même prendre soin de son corps. Avant d'aller chercher tous vos produits cosmétiques, utilisez d'abord bien l'huile d'olive bénite là. Permettez d'abord qu'on travaille sur vous bien. On l'enlève, on fait sortir de mauvaises choses. Avant d'aller mettre les trucs, vous ne savez même pas ce qui a été mis dedans. Je disais tantôt que les femmes n'allaient pas mettre les produits cosmétiques n'importe comment. Utilisez d'abord l'huile d'olive sanctifiée. Donnez-nous l'occasion d'abord de vous occuper, de nous occuper de vous. Laissez d'abord les produits cosmétiques. Et je disais encore, parce que j'ai été coupé là, je disais encore que n'utilisez pas les mèches brésiliennes et tout le reste. Vraiment, ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, vous allez prendre des choses qui vont vous apporter des malheurs puisqu'elles sont dédicacées à des, on appelle ça comment? À des divinités. J'étais en train de vouloir vous lire quelque chose. J'étais en train de réfléchir là-dessus. Je voulais vous lire ça. Parce que quand je vous parle, vous devez avoir des références bibliques. C'est extrêmement important. Il est écrit dans Genèse 3, le verset 16, ceci. Je vous disais que ça doit être Genèse 3. Et je regardais, j'ai trouvé. Il dit à la femme, c'est Dieu qui parle, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. » Mais il dominera sur toi. C'est ça que je voulais que vous lisiez. Vous avez entendu? Donc, normalement, dans un foyer correctement constitué, les désirs de la femme sont portés vers son mari. Quand vous voyez une femme qui n'est pas concentrée sur son mari, il y a problème. Il y a problème. C'est que son logiciel là n'est pas normal. Un logiciel normal d'une femme normale, c'est un logiciel d'une femme dont les désirs sont portés sur son mari. Vous avez compris, hein? C'est biblique. C'est un décret qui a été signé depuis longtemps. Qu'on ne vienne pas vous dire le contraire. Au vu d'un de ces éléments que nous avons vu ensemble, vous comprenez donc que le mariage en Jésus-Christ est une construction quotidienne du bonheur. Là-dedans, il y a un travail de participation commune, de cohabitation commune, de coopération commune, de partage commun, de soutien commun, d'entretien commun, Et cette affaire que les gens sont mariés et leurs problèmes sortent du foyer, c'est un malheur. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas se faire. Vous ne devez pas avoir ce genre de choses. Vous ne devez pas avoir ce genre de situation. Voyez d'abord et surtout comment résoudre les problèmes entre vous. Si dans un foyer, l'une des personnes bloque le dialogue, c'est un acte anti-mariage. Je vous ai déjà enseigné pendant longtemps que les femmes doivent savoir quand parler à leur mari. Ce n'était pas pour rien. C'était une affaire de fluidification du dialogue. Il y a des femmes qui ne savent pas quand poser les problèmes à leur mari. On ne pose pas les problèmes à un homme n'importe quand, n'importe où. Il faut parfois attendre le bon moment pour qu'il soit dans les dispositions pour t'écouter. Ce n'est pas que tu veux imposer ton point de vue à tout moment. Tu veux qu'on résolve tout. Non, 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 il y a des choses, tu te calmes. Il n'y a pas le feu. Tu te calmes. Attends. Quand les conditions, parfois tu peux attendre juste 5 minutes. Ou 10 minutes. Ou une heure. Attends. C'est ton mari. Pourquoi tu es pressé? C'est le mari de quelqu'un d'autre. Il va fuir après. C'est ton mari. Quelle que soit la situation, c'est ton mari. Tu attends un moment d'accalmie. Peut-être après qu'il ait pris un bon bain. Quand il a pris un bon bain, il est détendu. Ou bien il faut qu'il ait mangé. Ou qu'après il ait bien mangé. C'est comme ça qu'il faut savoir poser les problèmes. Donc en l'état, vous devez apprendre désormais à construire le mariage, à le construire véritablement. Vous devez être des acteurs, des personnes qui participent à la construction, méthodiquement, consciemment, volontairement, graduellement, patiemment, sagement. Parce que vous voulez préservez le bien que Dieu vous a donné. Et vous voulez que Dieu lui-même soit content. Parce que vous vous rappelez que c'est lui qui vous a mis à cet endroit. Et n'oubliez jamais que si vous êtes là par la grâce de Dieu, Dieu est fidèle. Il vous tient. Il vous entretient. Il vous soutient et il ne vous laissera jamais tomber. N'oubliez jamais la force de la prière. N'oubliez jamais la puissance de la foi. N'oubliez jamais qu'il n'existe aucun problème qui va vous arriver dans le mariage. Aucun que Dieu ne puisse résoudre. Si l'Éternel des armées a donné un enfant à Abraham à l'âge de 100 ans, à Sarah, son épouse, sa chair est tendre, à 90 ans, que Jacob ait été confronté à ses problèmes de stérilité et que ça ait été résolu. Et Sarah. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour vous? La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est qu'incontestablement, pour entendre tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, pour la deuxième partie de cet enseignement sur le mariage en Jésus-Christ, vous êtes particulièrement béni. Vous avez eu tellement de délivrance, vous avez eu tellement de guérison, vous avez eu tellement de restauration, tellement de choses ont changé. Le temps seulement de cet enseignement dirigé de manière magistrale par l'Esprit Saint. Vous avez eu tellement aujourd'hui. Je suis heureux d'être avec vous. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Soyez richement et abondamment bénis.